Livre de l'Apocalypse, au chapitre 3e. Nous relirons à partir du verset 1er. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, écrit. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
L'année dernière, nous avions abordé les quatre lettres à Smyrne, à Pergame, à Thyatire. Et nous avions commencé aussi à Sardes la méditation. Cette lettre correspond à ce qui est à l'expression du chapitre 1er, verset 19, les choses qui sont. Apocalypse est un livre prophétique et pour ce qui concerne l'assemblée, nous voyons que l'Esprit de Dieu nous présente en tableaux successifs l'histoire prophétique de l'Église responsable sur la terre. On peut dire depuis le début jusqu'à la venue du Seigneur. Et c'est un livre de jugement. Et ici, le Seigneur qui marche au milieu des sept lampes d'or, examine, pour ainsi dire, si les grâces qui ont été communiquées à l'Église par le Saint-Esprit, eh bien, ont produit les effets qu'il attendait. Ici, nous voyons le côté de la responsabilité de ces différentes assemblées. Jusqu'à la quatrième, c'est-à-dire jusqu'à Thyatire, nous avons la position ecclésiastique représentant toute l'Église. et d'ailleurs qui attire, comme nous le voyons, va jusqu'à la fin, puisque pour le petit résidu qui est là, présenté sous cette expression les autres, nous voyons que le Seigneur parle de sa venue. Le Seigneur a choisi à dessein sept églises qui existaient historiquement au moment où l'apôtre Jean écrit ses lettres. Et il y a sans aucun doute une intention de l'Esprit pour nous parler de ce qui a caractérisé cette Église dans son ensemble depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à la venue du Seigneur. Ces lettres renferment aussi, on peut dire, une instruction morale pour les saints, pour les assemblées. Il se pourrait que certaines assemblées portent actuellement les caractères moraux de l'une ou l'autre de celles qui nous sont décrites ici. Le nombre 7 est le nombre symbolique de la perfection et il traduit bien sûr un cycle complet des pensées de Dieu à l'égard de l'Église responsable sur la terre. Selon la grâce dans laquelle Dieu l'a placée. Les autres assemblées qui existaient à ce moment-là n'ont pas été retenues, pour ainsi dire, puisque Dieu avait en vue de nous brosser ce tableau complet. À partir de Thyatire, nous avons des églises résidues, comme on peut les appeler. Il y a un petit résidu à Thyatire qui reste là, et puis nous voyons que Sardes est issue de Thyatire, Philadelphie est issue sans doute de Sardes en grande partie, et Laodicée dépeint cet état où le Seigneur est prêt de vomir cette assemblée de sa bouche, il est à la porte. Il y a quelque chose de très solennel dans ce que l'Esprit de Dieu nous présente à propos de cette assemblée. Nous avons vu en quelques mots ce qui caractérisait chacune de ces assemblées. Le Seigneur se présente selon des caractères précis qui correspondent à des attributs du juge en général et il a quelque chose à dire à ces assemblées. Il commence par leur relever ce qui est, ce qu'il approuve. L'apôtre Paul d'ailleurs agit ainsi en écrivant ses épîtres. Il relève le bien que sa grâce a produit. Il y a toujours quelque chose qui est à la gloire du Seigneur dans la vie des siens. Ne serait-ce que la présence de la vie divine sous la puissance du Saint-Esprit, eh bien, il y a là tout ce qui est suffisant pour que les traits pratiques de cette vie soient manifestés. Sans doute ne le sont-ils pas comme le Seigneur le désire, mais c'est ce qu'il attend. Alors, ensuite, le Seigneur fait les reproches qu'il doit faire à chacune de ses assemblées, sauf à deux. Pour deux assemblées, il n'a aucun reproche à faire. C'est tout à fait remarquable. L'assemblée qui est fidèle dans la souffrance, dans la persécution, c'est Smyrne. Le Seigneur vient l'encourager pour traverser ces 10 jours de persécution. Et il y a Philadelphie qui est fidèle dans la faiblesse, la bonne faiblesse. Car il peut y avoir une faiblesse coupable. Mais Philadelphie est rejetée sur le Seigneur parce qu'elle sait, et le Seigneur le lui confirme, qu'elle a peu de force. Par contre, l'invitation à la repentance est demandée par le Seigneur pour les autres assemblées. Et puis le Seigneur, pour nous encourager à tous, suppose qu'il y a des vainqueurs dans ces assemblées. Sans doute, il les considère individuellement, il les sollicite, il leur donne des promesses. Et ces vainqueurs ont une promesse qui est en relation avec la victoire qu'il remporte sur l'état de choses que le Seigneur condamne. Ceci est très beau et très encourageant, y compris à Laodicée. Sans doute il est à la porte et sollicite quelques cœurs qui auraient des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées. Smyrne est une assemblée à laquelle le Seigneur dit, il se présente en disant, je suis le premier et le dernier, celui qui a été mort et qui a repris vie. Voilà, le premier et le dernier, c'est sa déité qui apparaît là dans cette expression. Il est avant toute chose et il est au terme de toute chose. Et il a repris vie, c'est l'homme Christ Jésus qui est le vainqueur de la mort, qui est ressuscité, qui est glorifié, qui vient encourager ceux qui vont passer par la mort de la persécution. Il y a là des expressions extrêmement touchantes, et à travers l'opposition de ceux qui se disent être juifs, il y a toujours des ennemis du peuple de Dieu, et les pires ennemis sont ceux qui viennent au nom de la religion officielle, dont la chair aime toujours à se glorifier. Ces ennemis-là, eh bien, ils ne font que rejeter ses fidèles sur le Seigneur, sur celui qui va les soutenir dans les épreuves qu'ils vont traverser. Lorsque le diable agissant directement, nous avons bien souligné cela aussi, que le Seigneur permet que soit réfréné, pour ainsi dire, le fléchissement qui était déjà amorcé à Smyrne, dans cette expression qui ne peut pas ne pas nous sonder, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Voilà le motif profond de tout déclin. Le Seigneur nous dit toujours la vérité parce qu'il nous aime. C'est vrai pour un individu, c'est vrai pour une assemblée. L'amour pour le Seigneur est le véritable moteur de toute notre vie lorsqu'elle est à la gloire du Seigneur. Alors là, le diable a pour ainsi dire la bride lâchée pour réfréner cette chute, l'amorce de ce glissement qui a lieu à Éphèse. Et le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et la tribulation de 10 jours est annoncée. Nous savons qu'il y a eu 10 persécutions au cours du deuxième et du troisième siècle, la dernière au début du quatrième siècle sous Dioclétien, qui a duré 10 ans. Les chrétiens, eh bien, se sont très bien portés à ce moment-là. C'est tout à fait solennel de penser qu'il faut que nous soyons persécutés pour être fidèles, pour être réveillés dans nos affections pour le Seigneur. Et alors, la promesse pour le vainqueur, eh bien, c'est qu'il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Seconde mort que nous pouvons mettre en relation avec le fait que chaque racheté a la nouvelle vie. Et à ce titre, il ne passera pas par la seconde mort, expression employée 4 fois dans ce livre de l'Apocalypse. À Pergame, une fois que la religion chrétienne a été déclarée comme religion d'État, et qu'il y a eu le chef de cet empire qui a embrassé le christianisme, était-il converti, Dieu le sait. En tout cas, une ère de prospérité et de liberté était accordée aux chrétiens. Et qu'allait-il en faire? Eh bien, nous voyons que l'Esprit de Dieu nous rappelle que le Seigneur se présente déjà avec cette épée aiguë à 2 tranchants et il doit déclarer « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, dont cette Église commencer à être influencé par le monde. Le monde qui l'a contaminé. Il y avait des compromis et nous avons cité bien des exemples qui confirmaient cela. Et nous voyons toutefois qu'il y a eu, malgré tout, une résistance et le Seigneur la retient ici. Tu tiens ferme mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin qui a été mis à mort parmi vous. Voyons là donc le Seigneur reconnaît toujours ce qui est selon sa pensée, ce qui le glorifie. Et en effet, tout ce qui caractérisait la personne du Seigneur et son œuvre a été pleinement défendu, notamment au concile de Nicée, comme nous le savons. Cependant, comme cela se voit constamment, eh bien, dès que la mondanité pénètre au sein du peuple de Dieu, les fausses doctrines ne tardent pas de l'influencer aussi. Et il y a là la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes, dont le Seigneur devait dire déjà à Éphèse qu'il avait en horreur ces œuvres des Nicolaïtes. Mais la pensée du Seigneur, c'est que au sein de cette mondanité grandissante qui influence Pergame, et bah, malgré ses fausses doctrines, il puisse y avoir un retour vers lui. C'est pourquoi il appelle son assemblée, son église à la repentance. Sinon, eh bien, la parole condamnera ce qui est à condamner. Et alors, ce qui est très beau aussi, c'est la promesse des vainqueurs dans un état de choses semblables. Cette promesse est de toute beauté. Celui qui vaincra, eh bien, je lui donnerai de la manne cachée. Christ dans son humanité qui sera la nourriture permanente de notre âme, dès maintenant et pour l'éternité. Et puis cette manne cachée, c'est celle qui correspond à l'humanité glorifiée de Christ. Elle était cachée dans la cruche d'or, nos mères, c'est-à-dire la portion d'un jour pour l'Israélite. Le Seigneur n'oublie pas ce qu'a été son Fils sur la terre. D'autre part, il est dit, il aura un caillou blanc, ce qui évoque l'approbation secrète du Seigneur pour les fidèles de ce temps-là, qui demandaient aussi une énergie de foi soutenue. Parce que on a pu dire à ce sujet que si Satan, le lion rugissant, fait trembler, pour ainsi dire, les croyants qu'il va persécuter par ses instruments, il est encore beaucoup plus dangereux lorsqu'il se présente comme un ange de lumière. Et ceci est extrêmement solennel. Mais il y a des vainqueurs au sein de cet état de choses, et ils sont approuvés du Seigneur. Et sur ce caillou blanc, il y a un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Voilà pour Pergame, pour Thyatire. Eh bien, à Thyatire, c'est à partir du Moyen-Âge, après le VIe siècle, que l'Église catholique romaine il y a eu la papauté qui a été instituée, et on peut dire que, du même coup, le Seigneur a été oublié. Sans doute pas du petit résidu qui est préservé de la corruption qui va régner dans ce milieu-là. Il y a là aussi des vainqueurs par la grâce de Dieu, comme dans toutes les parties de la chrétienté. Le Seigneur les manifestera en son jour. Eh bien, à Thyatire, où il y a l'opulence, si on peut dire, rappeler que il est question, Thyatire nous évoque cette pourpre, cette richesse qui était là, étalée, et le Seigneur se présente là, avec ses yeux qui sont comme une flamme de feu et ses pieds semblables à de l'airain brillant. Celui qui juge toutes choses parfaitement et qui sonde les reins et les cœurs. Alors, le Seigneur étant oublié, on peut comprendre qu'il y ait une évolution dans le mal. Sans doute, l'Église va régner sur le monde. Avant, c'était le monde qui l'influençait. Maintenant, elle va régner sur le monde. Elle va destituer des empereurs. Il y aura des princes qui viendront se mettre à ses pieds. Une véritable corruption religieuse. Alors le mal règne. Il y a l'idolâtrie, il y a la fornication, l'adultère, expression que nous retrouvons dans cette lettre. Mais ce qui est à retenir aussi, c'est l'importance qui est donnée dans cette assemblée aux œuvres. Sans doute il y a des œuvres que le Seigneur désapprouve nettement, mais il y en a d'autres qu'il approuve parfaitement. Et elles sont présentées dans cette expression « remarquable, mes œuvres ». Donc ce que le Seigneur accomplit par le moyen de faibles instruments qu'il a choisis, ce sont ses œuvres. C'est nous dire la dépendance de ces âmes pieuses, avec peut-être très peu de connaissances, pour faire ce qui plaît au Seigneur. Donc les œuvres, le Seigneur les analyse et sait quels sont leurs motifs. Et le motif est toujours dans le cœur. Et il appartient au Seigneur seul d'apprécier ses motifs. Alors les œuvres de Jézabel, la prophétesse, cela est tout à fait remarquable que le Seigneur doive dire « Elle enseigne mes esclaves. Ceux qui lui appartiennent sont corrompus par cet enseignement de cette prophétesse. Il y a quelque chose qui est ajouté à la parole de Dieu, qui n'est pas distribué librement aux fidèles. Il n'y a que le clergé qui a été institué déjà à Pergame, on peut dire, à travers les œuvres des Nicolaïtes. Eh bien, ce clergé est là, présent, qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, cette femme, Jézabel, elle enseigne, elle égare, elle entraîne les esclaves du Seigneur. Elle a ses propres enfants qui sont issus de cette corruption, mais il y a aussi les esclaves du Seigneur qui sont ainsi entraînés. Et il y a une expression qui nous sonde à tous, à savoir que l'ange de l'Assemblée, qui est la partie responsable devant le Seigneur dans chaque Assemblée, est interrogé par le Seigneur d'une façon extrêmement solennelle. Quand le Seigneur dit « J'ai contre toi », nous devons nous arrêter devant ce qu'il va nous dire à cet égard. « J'ai contre toi que tu laisses faire ». Et on a pu évoquer à ce propos l'importance des charges d'anciens, de surveillants, de serviteurs dans chaque assemblée locale. L'absence de tels serviteurs qui ont une fonction locale dans une assemblée est préjudiciable à l'ordre et à la sainteté qui doivent régner dans la maison de Dieu. Alors tu laisses faire, c'est coupable de laisser faire. Quand nous avons la pensée que du mal est en activité, eh bien, du mal est manifesté. La pensée du Seigneur, c'est que la sainteté sied à la maison de Dieu. Et nous voyons une chose très solennelle ici, c'est qu'il n'y a pas de repentance à attendre de ceux qui sont corrompus par cet enseignement de Jézabel. Elle ne veut pas se repentir. Mais le Seigneur pense aux autres dans cette assemblée qui n'ont pas cette doctrine, donc ils se tiennent à l'écart, ils n'approuvent pas, ils sont séparés, tout en étant, n'ayant pas eu l'énergie de quitter ce milieu-là. Et le Seigneur relève toujours ce qui a du prix pour son cœur, ce qui lui est agréable. Alors que leur dit-il, ils n'ont pas cette doctrine, n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Nous voyons partout Satan à l'œuvre dès que le Seigneur a quelque reproche à faire. C'est Satan qui a opéré. Dès qu'il y a un trouble dans une assemblée, soyons certains que l'ennemi est à l'œuvre. Alors, les profondeurs de Satan, voilà ce qui caractérise ce milieu-là. Je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme. Voilà. Tenir ferme, être fidèle à la vérité que nous avons reçue par grâce, où que nous soyons, et dans l'assemblée où l'enseignement a été donné, nous avons beaucoup reçu. Nous avons beaucoup reçu. Et cette parole du Seigneur est pour nous aussi. Tenez-le ferme. Et cela suppose une sainte énergie de foi pour ne pas nous laisser surprendre par l'ennemi de nos âmes. Et là, nous voyons les paroles pour le vainqueur, ceux qui ont gardé mes œuvres jusqu'à la fin. Tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur insiste pour cette venue, pour ceux qui sont vainqueurs. Sans doute cette vérité est peut-être connue dans ce milieu-là de certains, mais ils n'en comprennent pas tout le sens, comme cela nous a été enseigné. Mais voilà, le Seigneur leur dit, je vais venir, je vais vous prendre à moi. Alors, nous voyons que le Seigneur répond, fait des promesses en relation avec ce qu'ils ont été dans ce milieu corrompu. Ils ont été méconnus, ils ont été méprisés. Ils auront part au royaume, ils auront une autorité sur les nations, ils les pèteront avec une verge de fer, comme le Seigneur lui-même le fera, selon d'autres expressions que nous avons ailleurs, selon que moi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Voilà la venue du Seigneur, l'espérance céleste qui est proclamée là aussi à Thyatire. Et ce qui est très beau, c'est que le Seigneur parle des dernières œuvres de cette Église qui dépasse les premières. Il y a quelque chose aujourd'hui dans ce milieu-là, quant au dévouement, que le Seigneur apprécie parfaitement. Et tous ceux qui ont la vie de Dieu sont nos frères, nous ne l'oublions pas. Nous ne pouvons pas marcher avec eux, mais nous les reconnaissons comme étant nos frères. Et il peut y avoir certains points, selon les occasions que le Seigneur nous donne, où notre foi commune peut s'édifier mutuellement, peut nous permettre de nous édifier mutuellement. Le Seigneur apprécie tout ce qui est fait par amour pour lui. Ensuite, nous avons vu quelques pensées concernant Sardes. Sardes, c'est ce qui a suivi la réforme, un mouvement très puissant du Saint-Esprit qui a été produit au sein de la chrétienté face aux abus excessifs qui étaient pratiqués à Thyatire. Ce petit résidu, eh bien, il y en a quelques-uns qui ont eu l'énergie de se dégager de cet état de choses. Et ce fut la réforme. Seulement, comme nous le savons, eh bien, le fait de corriger les abus a entraîné, pour ainsi dire, un formalisme sans vie. C'est aussi tout à fait solennel à méditer cela. Le cas de Sardes, en un sens, nous est proche. Il y a pour nous une instruction morale à retirer. Et il ne suffit pas de vouloir corriger des abus, il faut encore que nous soyons tenus dans la proximité du Seigneur et gardés dans la jouissance de sa grâce et de son amour. Sinon, ces vérités que nous avons reçues, eh bien, n'ayant plus d'effet pratique sur nos vies, nous devenons de purs formalistes. Et c'est un grave danger qui entraîne bien sûr la routine et tout ce que nous pouvons connaître, hélas, même parmi nous. Alors le Seigneur doit dire, eh bien, il se présente avec les sept esprits de Dieu, une plénitude de connaissances, une septuple perfection quant à l'action du Saint-Esprit dans la révélation et l'exécution des jugements de Dieu. Car là aussi le Seigneur, s'il reconnaît ses œuvres et le ton nous paraît un peu sec, un peu bref, il va tout de suite dire, tu as le nom de vivre, tu as la réputation, c'est fié à la réputation, et tu es mort, tu es mort. Et le Seigneur condamne cet état de choses, affermit ce qui reste. Au fond, à Sardes, il y a eu comme une soumission à l'autorité civile qui avait embrassé la réforme. C'est le monde qui a dominé sur Sardes en un sens. Et par réaction aussi vis-à-vis de Thyatire, on a pu rappeler que l'accent était moins porté sur les œuvres. Il y a comme un déficit des œuvres, vis-à-vis des œuvres, à cause du rôle que leur donnait Thyatire, puisque le salut par les œuvres était proclamé à Thyatire. Et bien d'autres erreurs comme la mariolatrie, la transsubstantiation, la réforme a condamné bien sûr, et s'est dégagée de ces abus-là. Mais voilà, le Seigneur voit l'état de choses tel qu'il est réellement. Et il y a là aussi un résidu qui plaît au Seigneur, nous le voyons. De plus, le déclin a été assez rapide, ce qui nous a frappé aussi l'année dernière dans cette assemblée. Et l'explication, eh bien, c'est que on ne s'est pas soumis à l'autorité de la parole, un point très important. Il y a eu, pour ainsi dire, comme un affaiblissement quant à l'obéissance de la foi, l'obéissance par amour pour le Seigneur, l'obéissance à la volonté de Dieu. Et là, nous sommes très concernés aussi, si nous désirons connaître les raisons de nos déficiences actuelles dans les assemblées. L'obéissance est, comme le disait un frère, le principe curateur de l'humanité, l'obéissance à la parole, l'obéissance à Dieu. Eh bien, voilà une explication en tout cas qui nous paraît sérieuse concernant ce déclin très rapide qui engendrait finalement le protestantisme. Un système religieux, dit chrétien, qui a été la conséquence du déclin de la réforme, qui pourtant était un très puissant mouvement de l'Esprit de Dieu. Et on ne s'est pas attaché suffisamment à l'Écriture, aux vérités fondamentales ecclésiastiques. Et alors, seul a été retenu ce qui est un point clé, bien sûr, important, par-dessus tout, c'est le salut par la grâce et par la foi, sans les œuvres. La foi au sacrifice expiatoire de Christ. Il y a eu là des hommes et des femmes qui ont saisi cette vérité du salut par grâce et il y a eu un très beau dévouement aussi qui les a caractérisés quant à la marche pratique, puisqu'il nous est dit que ils n'ont pas souillé leurs vêtements et c'est encore un résidu au sein de Sardes qui a été suscité et que le Seigneur relève comme et s'étant gardé dans sa marche et sa conduite, selon cette expression que nous trouvons dans l'Ecclésiaste, quand tout temps tes vêtements soient blancs. Et la récompense est à la mesure de cette fidélité comme dans les autres assemblées pour le vainqueur. Que nous soyons nous aussi des vainqueurs.
L'Apocalypse est un livre prophétique. Et c'est clair que quand on lit à partir en particulier du maintenant à partir du chapitre 4, ce sont les choses qui vont arriver, les choses qui seront dans le ciel, les choses qui seront sur la terre, qui vont arriver. Et on voit souvent, quand on parle de prophétie, et je dis un peu de cela peut-être pour les plus jeunes parmi nous, on pense aux choses qui vont arriver. Un prophète annonce de la part de Dieu quelque chose qui va arriver. Il est bien clair que ces chapitres 2 et 3, au moment où l'apôtre Jean les a écrits, ces deux chapitres, eh bien, ce qu'il écrivait, il écrivait des lettres à des assemblées qui existaient à ce moment-là, et dans ce qu'il écrit et dans l'état de ces assemblées, il y a ce que nous avons vu, cette histoire de l'Église responsable sur la terre, une histoire qui commence avec Éphèse, mais qui avait commencé avant dans le livre des Actes, et une histoire aussi qui termine, quand on le verra peut-être demain, ou on verra à propos de la Odyssée, au moment où le Seigneur ne pourra plus supporter cet état, disant « je vais te vomir de ma bouche ». Donc il y a dans ces deux chapitres cette histoire de l'Église professante. Mais la prophétie, quand par exemple Jérémie venait parler au peuple d'Israël, c'était pour parler à son cœur, c'était pour parler à sa conscience, c'était pour lui dire de revenir jusqu'à l'Éternel. C'était pour lui dire de se repentir. Et nous avons lu dans ces chapitres que dans ce sens-là aussi, l'Apocalypse est un livre prophétique. Dieu a envoyé son esclave Jean, le Seigneur a envoyé son esclave Jean pour nous parler. Et non pas simplement pour nous parler d'une façon globale, pour nous parler à nous tous ensemble, mais aussi pour nous parler à chacun de nous personnellement. Il y a des phrases, des mots qui reviennent, des phrases qui reviennent dans chaque épître, à différentes places, mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Il n'est pas dit que ceux qui ont des oreilles écoutent, mais que celui qui a des oreilles. Ça veut dire que Dieu me parle, Dieu nous parle à chacun par ces passages. L'Esprit de Dieu veut nous parler pour que nous écoutions, pour que notre cœur, comme il est dit dans la parabole du semeur, que nous ayons ce cœur honnête et bon qui reçoive la parole, que celui qui a des oreilles. Et puis, il n'est pas dit non plus ceux qui vaincront, mais celui qui vaincra. Ça veut dire que par ces pages, par ces lignes, eh bien, le Seigneur nous parle pour que nous désirions vaincre, pour que nous soyons de celui qui va vaincre, celui qui va le suivre, celui qui va se tourner vers lui pour vaincre. Et il serait dommage que de ces journées d'études ou de ces dernières années aussi, nous ayons comme souvenir simplement, voilà, c'est l'histoire de l'Église. Et puis on va penser à Éphèse, on va penser à Smyrne, les persécutions, etc. C'est juste, c'est tout à fait juste. Mais nous aurions perdu quelque chose si nous avions oublié que dans ces exemples qui nous sont donnés, dans ces paroles qui sont écrites, Dieu nous parle pour que nous soyons attentifs, pour que notre état moral corresponde à ce qu'il attend de nous. Et quand, par exemple, au début, à propos de l'assemblée d'Éphèse, quand il est dit, tout à l'heure on l'a déjà souligné, mais quand il lui dit j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, est-ce que cela concerne qu'Éphèse? Ou est-ce que cela ne nous concerne-t-il pas, nous aussi? À Pergame, le Seigneur l'appelle à se repentir parce qu'elle est dans le mélange avec le monde. Est-ce que cela ne nous parle pas non plus? Quand il est question pour celui qui vaincra de Thyatire, quand le Seigneur lui parle de l'étoile brillante du matin, cette espérance, est-ce que cela ne nous attire pas non plus? Et dans la suite de ce que nous allons voir au propos de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, il y a aussi des choses qui nous parleront. Alors, quand Dieu envoyait un prophète, il parlait à la conscience et au cœur de son peuple pour qu'il retourne, pour qu'il revienne à l'Éternel. Et peut-être que là, dans ces jours où nous allons nous pencher sur ces passages de la parole de Dieu, c'est peut-être encore une occasion. C'est certainement encore une occasion, c'est certainement encore une fois où notre Dieu, notre Seigneur vient nous parler pour que nous retournions vers lui. Et n'oublions pas que chaque épître, chaque lettre commence par ces mots « Je connais ». Le Seigneur nous dit « Je connais ton état. Je connais où tu en es. » Et vous savez, certainement, si lui d'un côté connaît notre état, ce qu'il y a dans nos cœurs, ce qui est réellement notre état devant lui, alors plaçons-nous dans sa lumière pour nous laisser sonder, afin que nous sachions répondre à ce qu'il attend de nous. Afin que, vraiment les uns et les autres, du plus jeune au plus âgé, nous soyons de ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et que, s'il patiente encore un peu, en quittant ces lieux, nous nous appuyons sur lui pour être l'un, l'autre, chacun d'entre nous, un de ceux qui vaincront, un à qui il peut dire « Celui qui vaincra, je lui donnerai ». Une relation personnelle entre notre Seigneur et nous-mêmes. Chaque fois aussi, c'est merveilleux de le voir dire « Celui qui vaincra, je lui donnerai ». Comme marquant sa satisfaction, le vainqueur est là, devant son maître, devant son Seigneur. Le Seigneur est là, heureux de pouvoir donner à l'un de manger de l'arbre de vie, à l'autre ce caillou blanc, de lui donner cela. Celui qui vaincra, je lui donnerai cela.
Dans le cadre des généralités, là, sur la prophétie, il est peut-être intéressant de rappeler que dans la parole, cette fresque prophétique, si nous pouvons nous exprimer ainsi, cette vision globale que Dieu donne sous forme de tableaux qui se suivent, ce n'est pas quelque chose d'isolé, mais nous en relevons au moins 5 dans les Écritures, peut-être y en a-t-il davantage. Mais si nous pensons par exemple à l'histoire d'Israël, nous avons dans le chapitre 49 de la Genèse une vision globale qui nous est donnée dans les 12 fils de Jacob, dans ces dernières paroles que leur père leur adresse, et nous reconnaissons des tableaux successifs qui nous présentent des points de vue, quelquefois sur la même période, d'autres fois qui s'étendent assez loin, mais qui définissent des caractères historiques qu'a porté ce peuple au cours des âges, et qui ne sont d'ailleurs pas terminés. Deuxième tableau que nous pourrions relever, c'est celui des sept fêtes de l'Éternel en Lévitique 23. Et c'est très intéressant d'étudier ce chapitre à la lumière d'écrits que nous avons, qui nous montre tout qui commence à la Pâque, n'est-ce pas, et image de l'œuvre de Christ, puis les périodes qui se suivent et dans lesquelles aussi le temps actuel s'insère. La Pentecôte, la fête de la Pentecôte, nous savons qu'elle figure l'Église. Et voilà, la moisson, et puis ce qui suivra. Et Dieu a donné là, sous forme imagée, des représentations de ce qui arrivera. Un troisième tableau, nous le trouvons dans le chapitre 2 de Daniel, c'est celui de la statue. Nous connaissons ce rêve, n'est-ce pas, du roi Nebuchadnezzar, et comment ces quatre empires des nations sont schématisés par la tête d'or, la poitrine d'argent, puis les reins, puis les jambes de fer, et finalement les pieds mêlés d'argile. Et là aussi, nous avons une représentation globale que Dieu donne sous cette forme imagée et par laquelle il montre comment se succéderont ces empires des nations. Daniel se trouve au milieu des nations, figure de cette dispersion que connaît Israël. Pendant ce temps se déroule cette histoire des nations qui, elle non plus, n'est pas achevée. Ni l'histoire d'Israël en Genèse 49, ni la série des fêtes, ni non plus cette statue, tout ça est en cours. Et c'est extrêmement frappant de voir comment les choses se déroulent et se situent peu à peu. Et si ce qui est derrière s'est réalisé, ça nous donne une certitude supplémentaire que ce qui est devant s'accomplira aussi. Alors si nous passons au Nouveau Testament, nous avons bien sûr Matthieu et qui nous présente les formes que prend le royaume, quelquefois pour nous donner des aspects complémentaires, choses qui se passent au même moment ou qui se succèdent dans le temps. Et puis alors nous avons ces deux chapitres. Et il est précieux de penser d'ailleurs tout ce qui touche à la prophétie, que Dieu nous en parle d'avance pour nous montrer qu'il n'est jamais pris au dépourvu. Dieu est en dehors du temps, et c'est tout d'avance, et se plaît à le révéler selon le propos qu'il a qu'il exprime à propos d'Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Voilà ce que je vais faire. Et j'en fais part à ceux qui désirent connaître ma pensée. Abraham était l'ami de Dieu, et Abraham lui confie ses secrets. L'intimité d'Abraham avec son Dieu est quelque chose de touchant et qui nous invite, nous aussi, à réaliser ces privilèges que nous avons de connaître la parole et d'être introduits, pour ainsi dire, initiés dans ces choses qui vont arriver. Alors, il va y avoir, à travers tout ce livre de l'Apocalypse, les événements qui ne concernent pas directement l'Église. Elle sera élevée dans le ciel, ce sont les choses qui doivent arriver après celle-ci. Sans doute, elles se dérouleront. Et tout permet de penser que le compte à rebours est extrêmement avancé et que tout va commencer bientôt. Tout se met en place. Mais avant, voilà, il y a cette histoire de l'Église responsable qui se déroule. Et Dieu d'avance connaissait toutes choses et nous en décrit les différentes phases pour que il y ait un effet moral sur les croyants. Ce n'est pas seulement pour nous instruire, pour nous intéresser quant à l'avenir, mais tout ce qui concerne ces choses, et spécialement celles qui concernent le temps actuel. C'est très rare dans l'Écriture que nous ayons quelque chose sur la période actuelle. Nous savons que l'Église est en dehors de la prophétie et que si la prophétie occupe une très grande place dans l'Écriture, en fait, elle concerne essentiellement ou Israël ou un temps qui n'est pas encore là, une période très courte, un laps de temps de 7 ans, qui occupe une très grande place dans la parole de Dieu. Par contre, sur l'Église, nous aurions aimé avoir certainement beaucoup plus de détails, très peu de choses. Mais tout de même, ces deux chapitres sont là, et bien riches d'enseignements. Et en regardant en arrière, nous avons ce privilège, nous, de pouvoir regarder en arrière ce que n'avaient pas les croyants du temps d'Éphèse, mais nous pouvons dire, eh bien oui, tout ce qui est donné là, ce n'est un tableau que trop vrai des choses comme elles sont arrivées. Et nous arrivons, nous, tout à la fin. Et nous pouvons nous reconnaître. Alors prenons, comme notre frère d'Andrieux vient de nous le rappeler, les avertissements pour nous-mêmes. Chacun pour lui-même. Pas dire simplement l'Église est en ruine, nous avons nous humilier de notre état général, puis regarder autour de nous. Nous ne regardons pas autour de nous, regardons d'abord notre propre cœur. Demander si nous ne sommes pas parmi ceux qui ont une belle profession, une belle prétention, et puis voilà, qui ont manqué de vigilance. Sois vigilant, dit le Seigneur, affermis ce qui reste. Il y a un reste. Il y a ce qui a été placé entre nos mains. Qu'en faisons-nous? Souviens-toi comment tu as reçu. Et ce comment a une portée certainement aussi pour nous. Parce que nous avons beaucoup reçu. On pourrait s'attendre à dire, souviens-toi combien tu as reçu. Et effectivement, nos bibliothèques sont remplies d'excellents livres. Nous avons beaucoup reçu. Mais comment? Ça met l'accent sur la manière dont a été vécue la vérité chrétienne par ceux qui nous ont enseigné. Ils nous ont pas seulement laissé des livres, ces frères, mais ils nous ont laissé un exemple de vie. Ils nous ont laissé un comportement, une séparation du monde, une vie chrétienne qui nous est en exemple et dont nous sommes responsables de suivre ces traces. L'enseignement a été vraiment vécu. Et au fond, un enseignement n'a de force, n'a d'autorité que quand il est réellement vécu par ceux qui le donnent. Alors, nous avons cet avertissement du verset 3. Repens-toi, nous avons remarqué ce terme que nous trouvons dans les cinq églises auxquelles des reproches sont faits. Il y a deux églises, ça nous a été rappelé, auxquelles il n'est fait aucun reproche. Celles-là n'ont pas « repens-toi ». Mais ici, il y a ce « repens-toi » et c'est par rapport à ce qu'on a reçu, la responsabilité qu'on a par rapport à la manière dont elle a été mise en pratique, ou plutôt dont elle ne l'a pas été. Alors, si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur. C'est une parole que nous trouvons dans la bouche du Seigneur Jésus, que nous trouvons aussi en 1 Timothée 5, cette manière de surprendre ceux qui sont responsables. Venir comme un voleur, la venue d'un voleur a au moins trois caractères. Elle est inattendue, elle prend par surprise. Ensuite, elle est indésirable. Et enfin, elle dépouille. Un voleur vient, il ne prévient pas, et c'est une visite inopportune, et enfin, pour nous ravir quelque chose. Et alors, le croyant, lui, il attend le Seigneur, et puis il le désire. Et enfin, le Seigneur vient l'enrichir, lui apporter ce après quoi son cœur soupire, la satisfaction, le bonheur qu'il a préparé pour les siens. Voilà comment nous devons attendre le Seigneur. Mais pour la profession chrétienne, il vient d'une telle manière, il vient comme un voleur. Et l'avertissement est là. Le Seigneur nous donne aussi de lui prêter toute notre attention.
C'est cette lettre écrite aux sept églises qui étaient à différents endroits, comme nous l'avons vu, ont été écrites aussi pour nous, bien sûr, on l'a déjà dit, mais elles répondent à une grande question que le croyant ne peut manquer de se poser quand il voit le cours du temps, quand il voit l'évolution de ce qui portait le nom d'Église, quand il voit comment ce qui était si cher au cœur du Seigneur, pour lequel il avait donné sa vie, qu'il avait acquis au prix que nous savons, une perle de grand prix pour lequel il a vendu tout ce qu'il avait, Comment se fait-il que Dieu puisse permettre, que Dieu puisse laisser les choses aller ainsi? Voilà une grande question que les croyants, à plusieurs reprises et à plusieurs époques, se sont posées. Et il y a 150 ans, la même question s'est posée. Et dans ce passage, Dieu répond à cette question. Les hommes ont donné leur lecture de ces événements. Nous avons des bibliothèques entières. Les bibliothèques des hommes sont remplies d'histoires de la religion. Mais ce n'est pas ici une histoire de la religion. Les hommes sont remplis d'explications à ces phénomènes, sont remplis de jugements qui ont été portés sur les agissements de la papauté, par exemple, à certaines périodes particulièrement noires du Moyen-Âge, dans les massacres de la Saint-Barthélemy, pour cette période qui a particulièrement touché les croyants de l'époque. Ce n'est pas cela que la parole nous dit. Elle nous donne la lecture que Dieu fait de l'histoire morale de l'Église. Et ceci est pour le croyant de la plus haute importance. Comment Dieu lit-il cette histoire? Certes, déjà dans les autres livres du Nouveau Testament, certains autres livres du Nouveau Testament, nous avons cet éclairage de Dieu sur l'évolution des choses. Deuxième épître à Timothée, des paroles très fortes sont dites, épître de Jude. Des paroles très fortes sont dites dans ces deux épîtres, n'est-ce pas, sur ce qu'il doit advenir, l'évolution que l'on peut constater de la chrétienté, ou du moins de ce qui portait ce nom-là. Mais là, nous avons un panorama complet qui, en quelque sorte, éclaire le croyant sur le fait que Dieu n'est pas insensible, que Dieu est tout à fait clairvoyant sur ce qui se passe. Le troisième point, c'est que dans ces passages, et nous l'avons rappelé, un double éclairage est donné. D'une part, sur la grâce avec laquelle le Seigneur avertit, avec laquelle le Seigneur interpelle, avec laquelle l'Esprit énonce des prend garde. Une grâce remarquable. On aurait pu penser, on aurait pu craindre que le Seigneur, devant un tel état de déclin, d'abandon, laisse faire. On aurait pu craindre que le Seigneur, en quelque sorte, se retire de la scène. Non, le Seigneur est là, et le Seigneur agit. Et le Seigneur, dans sa grâce, agit. Mais aussi, et ceci est le côté solennel, toujours ce parfait équilibre que nous trouvons dans la parole, et que nous devons nous efforcer de conserver. Et il est toujours dangereux, au moment en particulier de péril, de perdre le sens de cet équilibre. Équilibre entre, d'un côté, la grâce dans laquelle nous sommes, sur laquelle nous devons compter, ressource indispensable, ressource de notre époque, ressource merveilleuse, elle est présente dans chacune, même dans la situation la plus terrible, celle de la Odyssée, et d'un autre côté, la sévérité, la solennité plus exactement, la solennité des jugements, la solennité de la lumière qui vient disséquer ce qu'il y a dans les cœurs et dans les consciences. Eh bien, il est important que nous mettions en perspective ce que nous voyons autour de nous, cet état d'éclatement de la chrétienté dont nous devons souffrir, dont nous ne devons pas prendre notre parti, mais que nous devons regarder à la lumière de la parole. Il est de la plus haute importance que nous voyons cela et que nous le mettions en perspective, non pas de nos pensées, encore moins de nos sentiments, mais de la parole et de la façon dont Dieu l'éclaire. Et si nous ne faisons pas cela, nous serons déstabilisés. Si nous ne faisons pas cela, les événements que nous pouvons vivre nous feront craindre le pire. Si par contre, nous réalisons que, de la même manière, que le Seigneur était là, derrière la scène, au-dessus de la scène, et qu'il envoyait tous les détails, alors nous savons à qui nous adresser. Nous savons que dans ces combats, dans ces luttes, dans ces soucis, dans ces difficultés, dans ces tristesses aussi, car il y a de tout cela, nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Et que celui qui a veillé dans le passé, dans des temps terribles, veille aussi dans le présent. Combien cela est important. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces lettres sont toujours contemporaines et ont été écrites. Et dernier point, nous avons ici aussi dévoilé devant nous, par celui qui est l'horloger des cœurs, les déclics, les ressorts, les raisons, les motifs, les mobiles qui ont amené ces manquements, qui ont amené ces chutes, qui ont amené ces déclins. Et combien cela doit aussi nous parler. Combien, comme notre frère l'a rappelé, combien cela doit nous interpeller. Est-ce que, en nous regardant au miroir de la parole, est-ce qu'en nous regardant dans le secret de nos cabinets devant le Seigneur, où nous ne pouvons rien cacher, est-ce que, quelquefois, nous ne sommes pas aussi en but au même danger que ceux que nous pouvons stigmatiser et que le Seigneur relève par son esprit dans les cas qui sont passés devant nous. Alors, nous avons là non pas des recettes, mais nous avons là les raisons profondes que le Seigneur lui-même donne et qui, car il n'y a jamais dans la parole de recettes, et qui nous instruiront et nous pousseront à demander au Seigneur qu'il nous éclaire sur la leçon que nous pouvons chacun en tirer dans l'attitude à avoir dans des circonstances qui peuvent se présenter.
Dans l'église à Sardes, il y avait donc une réputation. Tu as le nom de vivre et tu es mort. Qu'est-ce que le Seigneur vient chercher? Qu'est-ce qu'il cherche dans cette église? Il dit, je connais tes œuvres. Il ne dit pas plus loin. Il cherche dans cette église la vie. Tu as le nom de vivre et tu es mort. Et affermis ce qui reste et qui s'en va mourir. Il cherche la vie. Et de notre côté, s'il n'y a plus la vie, c'est que ceux qui sont là sont coupés de la source de cette vie. Et de notre côté encore, quand il se présente à cette assemblée, il lui dit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Plus haut, on avait déjà remarqué ça, je crois, l'année dernière, à Éphèse, il dit, voilà ce que dit celui qui tient les sept étoiles. Les sept étoiles étaient là, il les tenait dans sa main, elles étaient encore là, à disposition. Là, il dit, il a les sept étoiles, il a les sept esprits. Il dit, il a toute l'autorité, il a toutes les ressources. Et dans ce milieu marqué par la mort, les ressources qui sont dans le Seigneur sont intouchables. Il a les sept esprits, il a les sept étoiles, les ressources en lui-même que l'on peut trouver, que personne ne peut toucher et qui sont à la disposition de ceux à qui il s'adresse. Et quand il dit aussi, souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8 et au verset 18, on peut peut-être lire au verset 15, « Ceux qui sont dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec patience. » Luc 8, verset 15, « Pour que du fruit soit produit, il faut que la plante qui porte ce fruit soit vivante et qu'elle soit en relation avec celui qui a la vie. Et puis, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ni ne la met sous un lit, mais il y a place sur un pied de lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Pour que la lumière brille, d'abord, il faut qu'elle ne soit pas cachée, mais il faut aussi que elle soit en relation avec la source de la lumière, celui qui a les sept esprits, celui qui a les sept étoiles. Et puis, car il n'y a rien de secret qui ne viendra manifeste, ni rien de caché qui ne se connaîtra et ne vienne en évidence. Tu as une réputation, tu es peut-être extérieurement correct. Comment es-tu dans ton cœur? Il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste. Tu es en face de celui qui éclaire ton cœur. Prenez donc garde, comment vous entendez, car à quiconque a, il sera donné, et à quiconque n'a pas cela même qu'il croit avoir, c'est dans la note, ou qu'il paraît avoir, lui sera ôté. Nous sommes là devant le Seigneur, comme quand il s'approchait de Sardes. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu. Prenez donc garde comment vous entendez. Nous sommes là ici. Alors, bien sûr, dans ces deux journées d'études, si le Seigneur le permet, nous allons entendre beaucoup de choses. Les frères qui présentent la parole peuvent aussi se tromper. Il peut y avoir des choses peut-être qui ne seront pas tout à fait exactes, un lapsus, quelque chose qui va nous accrocher un peu. Nous avons peut-être entendre des quantités d'informations, de choses nouvelles que nous n'avions pas encore vues, un enseignement. Mais il est bien clair que ça sera bien en repartant d'avoir appris des choses, de les savoir. Mais le Seigneur nous dit, prenez donc garde comment vous entendez, comment tu le reçois dans ton cœur, quelles vont être les conséquences dans ta vie, comment reçois-tu cela, est-ce qu'il va y avoir du fruit? Tu vas peut-être partir avec un grand bagage dans ta tête, si cela ne se traduit pas dans ta vie, ce que tu crois avoir te sera ôté. Par contre, si tu viens avec ce cœur honnête et bon, alors tu as déjà quelque chose, et à quiconque a, il sera donné. Et si le Seigneur nous amène à écouter sa parole, s'il nous amène, s'il nous avertit, s'il nous dit « repens-toi », c'est qu'il a un but. Son but, c'est que nous écoutions. Son but, c'est que nous nous repentions. Son but, c'est que nous portions du fruit et que nous, qu'il y ait vraiment des résultats dans nos vies de ce qu'il nous dit. Ah, qu'il nous donne alors d'être de ceux qui prennent garde comment nous entendons.
Encore un mot sur cette expression, celui qui a les sept étoiles. Les sept étoiles, le Seigneur les possède. Elles sont à lui. Ces étoiles qui représentent, comme nous le savons, les anges des sept assemblées, elles sont dans sa main, comme au chapitre 2, premier verset, mais elles lui appartiennent, alors que nous-mêmes, comme serviteurs du Seigneur, nous ayons conscience de son autorité, et puis aussi que nous puissions nous appuyer entièrement sur lui et dépendre de lui entièrement. Et puisque le Seigneur a confié des charges, comme on l'a dit tout à l'heure, des responsabilités particulières, plus particulières à certains frères dans les assemblées, que ces frères ne se découragent pas lorsqu'il y a des difficultés dans les assemblées locales, mais qu'ils soient rejetés sur le Seigneur en se redisant intérieurement, il a les sept étoiles, non seulement il les tient dans sa main avec sa puissance, mais aussi il les possède, et qu'ainsi nous soyons rejetés sur lui.
Oh.